Bonjour, bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti.
La mort, tout un art.
L'art d'organiser un festival de la mort avec Marine Frugès et Grégory Nieuwaert. Vous êtes tous les deux cofondateurs de la coopérative funéraire de Rennes et vous êtes en train d'organiser un festival de la mort en septembre 2024. Vous avez constitué une équipe organisatrice dont je fais partie. Alors même si je connais certains aspects, la programmation qui se dessine et puis la construction, je voulais prendre ce temps, en pleine conception, de nous poser, de nous arrêter sur ce projet un peu fou, en tout cas audacieux. Greg, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son point de départ à ce festival de la mort ?
Le point de départ pourrait être le fait qu'au sein de la coopérative funéraire de Rennes, il y a deux grands piliers. L'idée, c'était au départ de construire une entreprise de pompes funèbres, enfin en tout cas une alternative dans le domaine du funéraire comme entreprise de pompes funèbres. Et puis, dans un second temps, un second pilier qui était de travailler autour des espaces qui permettent en tout cas de sensibiliser les citoyens, les citoyennes, les gens de la cité autour des questions de la mort. Dans ce deuxième pilier, on a travaillé depuis les prémices de la coopérative à l'émergence d'un espace convivial qu'on a appelé les cafés mortels. L'idée des cafés mortels, c'est de faciliter la parole autour de la mort en invitant un sachant ou une sachante, qui peut être de l'ordre d'un artiste, d'un anthropologue, d'un praticien du funéraire ou autre, qui viennent partager sa connaissance autour de cette question qui est centrale, celle de la mort, mais à travers sa pratique ou ses recherches, et faire de manière à ce que, à travers ce domaine exploré, les gens qui prennent part à ces cafés mortels, dans un café, tout en buvant un coup ou en mangeant un morceau, puissent s'interroger autour de la thématique abordée, mais puissent, dans un second temps, échanger entre eux de manière informelle et créer justement dans cet espace convivial un endroit où la parole de la mort n'est pas tabou. On s'est rendu compte avec les cafés mortels, on en a fait quand même 19, on a presque accueilli 1200 personnes autour de tous ces cafés mortels qui avaient là vraiment un sujet et qui avaient vraiment une nécessité dans notre cité, en tout cas à Rennes, d'avoir ces espaces de partage, d'avoir ces endroits où on se sente bien, on pourrait dire même dans un endroit un peu fun, mais où on aborde de manière consciente et éclairée autour des questions qui sont liées à la mort. Et on s'est dit, au vu de toute cette expérience-là, et si on n'allait pas un peu plus loin, et si on faisait un festival de la mort ?
La mort est un sujet vaste. Quelles sont les thématiques que vous avez choisi d'aborder ?
En fait, il fallait réussir à circonscrire. On s'est rendu compte qu'avec les cafés mortels, le sujet de la mort est quelque chose qui draine à peu près tous les secteurs. Je me suis rendu compte, par exemple, que le domaine de l'architecture, comme le domaine artistique, ou même le domaine de l'anthropologie, on pourrait presque même dire qu'aujourd'hui, le politique pourrait s'intéresser à ces questions-là. Mais c'est comment elle les aborde. Et il fallait que nous, on puisse circonscrire, en effet, le festival autour de certaines thématiques. Elles se sont, en fait, ancrées assez vite sur l'appétence qu'avait le groupe par rapport à certaines choses, et même au-delà de ça, par rapport à la connaissance que chacun des membres avait ou portait, je veux dire, du point de vue professionnel, ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans leur vie, dans le monde extérieur, on va dire, et que chacun de ces savoirs puisse être partagé au sein du groupe. Et assez vite, on s'est dit qu'il fallait circonscrire les thématiques parce qu'on ne pouvait pas aborder l'ensemble du sujet. Ce qui fait que, assez vite, trois entités se sont déclinées, ont été apportées. La première était de travailler autour de la nourriture. La deuxième était de travailler autour des sons, des mots et des expressions. Et la troisième était de travailler autour du thème des objets. À partir de là, en fait, bon, déjà, on est sur le chiffre 3. Mais où s'est décliné, se sont déclinés, en fait, la mise en place du festival, et c'est pourquoi le festival va durer 3 jours, en tout cas dans sa manière concrète et événementielle, on va dire, au mois de septembre, c'est que il y avait la volonté d'avoir une narration, en fait, qui se mette en place. Cette narration-là, elle a été, si je prends par exemple la thématique des objets, on s'est dit ce qui pourrait être intéressant, au vu de certains écrits qu'on avait pu lire, qu'on puisse décliner la relation intime qu'on pouvait avoir par rapport aux objets, la dimension privée qu'il y avait par rapport à un objet, mais aussi la dimension publique par rapport à un objet. Et c'est comment un objet se déplace au fur et à mesure qu'on s'approprie de cet objet, et notamment, mais ça peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, notamment à travers une cérémonie par exemple, mais aussi à travers ce qu'on allait mettre en place pendant le festival et comment on allait interroger justement ces différentes dimensions. Et pour le groupe de la nourriture, c'est pareil, cette narration-là, elle s'est articulée aussi sur un autour de, par exemple, les premiers jours, on va travailler autour du pain, autour du désir de se faire quoi on peut tendre, en tout cas, autour de la nourriture. Il va y avoir un autre temps qui va être autour de le fait d'organiser et mettre en place un banquet. Et puis, en amont, il y a justement comment on fait lever le vin, comment on apporte petit à petit, en fait, une réflexion autour de ça, quoi.
Oui, parce que le festival, ce sont 3 jours, donc on peut déjà donner les dates 20, 21 et 22 septembre 2024. Un lieu.
Le Vieux Saint-Étienne. Et puis, une autre articulation s'est mise en place aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'avoir un moment fédérateur, qui est ces 3 jours de festival au Vieux Saint-Étienne pendant le mois de septembre. Et puis, il y avait la volonté aussi, mais ça, c'est par les choses, c'est en cheminant qu'on arrivait à cette réflexion-là, de créer des laboratoires en amont et de nourrir, en fait, pendant l'année qui précède, donc à partir de là, janvier jusqu'au mois de septembre, des laboratoires, des ateliers qui viennent nourrir, réfléchir, mais dans un temps plus long, autour de chacune des thématiques.
Là, on peut se concentrer sur le groupe objet, justement, et sur, sans dévoiler la programmation pendant ces 3 jours de festival, mais sur ce temps de laboratoire, là, aujourd'hui, vous en êtes où de vos réflexions, de vos rencontres aussi? Marine, vous êtes artiste visuelle, designer, directrice de création. Vous avez fait appel aussi à votre réseau d'artistes?
J'ai pas fait trop appel à mon réseau d'artistes. Il est venu plutôt progressivement. Ça a commencé plutôt par des découvertes d'artistes. Dans notre groupe, on est aussi avec Juliette Gauthier, qui est plasticienne et qui nous a fait très vite rencontrer une autre plasticienne avec qui elle avait fait ses études, qui s'appelle Lucille Marceau. Et vraiment, on a eu une super accroche parce que sa sensibilité qu'elle avait, déjà le traitement du sujet qu'elle avait autour des reliquaires, de la mémoire, venait vraiment résonner très directement avec notre approche. Donc voilà, il y a eu Lucille. Après, il y a eu Christina Maldonado qui était en résidence artistique au bout du plongeoir en 2022 et qui était en partenariat, en résidence à la coopérative funéraire. Donc c'est comme ça qu'on l'a rencontrée, grâce à Au bout du plongeoir. Elle est en train de prolonger sa recherche de façon beaucoup plus large et après on va voir comment on va pouvoir aussi la programmer sur le festival. D'une certaine manière, par accident, on avait entendu parler du festival de la mort qui se passait à Bruxelles, qui s'appelle le Dia de Muertos, et qui avait mis en place ce qu'on trouvait étonnant et puissant, une installation de meubles qui s'appelait l'Hôtel des Morts, et dans lequel il y avait eu plein de petites niches qui racontaient plein de récits et de relations entre les vivants et les défunts à cet endroit-là. Et on a eu l'occasion d'y aller justement pour découvrir ce collectif d'artistes qui s'appelle Tados, qui est menée par Célia Desardo, Sarah Brûlé et Manon Brûlé. Et ça a été une super rencontre aussi. Donc en fait, les choses se sont faites un petit peu parce qu'on était en veille, on était toujours attentif à ce qui nous entourait, justement des projets qui soit artistique, soit autre, étaient en résonance avec l'approche de la coopérative funéraire aussi. Et de ça a découlé ces rencontres.
Et là, sur votre voyage justement en Belgique, vous êtes plusieurs à y être allés, de la coopérative, soit membre fondateur, soit sociétaire. Et qu'est-ce que vous avez vu, vécu là-bas, que vous aimeriez justement transmettre durant toute cette année et pendant le festival?
Ça a été cette rencontre-là justement avec elles, ça a été le fait qu'elles ont des approches qui commencent par être d'abord artistiques, pour les emmener justement sur une prise d'ampleur qui s'est faite au fil des années pour le festival de la mort là-bas. Et en fait, on a vu qu'elles, progressivement, se posaient plus de questions et commençaient plus à aborder une réflexion autour des entreprises de pompes funèbres. Donc en fait, elles ont fait un chemin inverse au nôtre. Et on s'est retrouvés dans ce croisement-là. Elles font des ateliers avec tout public, des enfants, pour aborder le sujet de la mort. Donc elles sont vraiment sur aussi l'idée d'aborder ce sujet et ne pas le mettre en marge. Et toujours d'une façon très poétique, pertinente, puis forte dans les exigences aussi, à la fois artistiques, enfin à la fois sur le fond et sur la forme. Et donc voilà, il y avait eu un écho naturel qui s'était fait suite à des visios.
Pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y avait aussi, à travers la mise en place de ces ateliers, mais aussi la mise en place d'un espace collectif, hein, il y avait une façon de mobiliser en tout cas la population sur comment s'approprier justement de leur propre histoire personnelle et de la déplacer dans quelque chose de collectif. Et c'est vraiment ça en fait qu'on a été chercher à comprendre, en tout cas comment ils avaient mis en place cela. Et c'est là où en fait ça a vraiment nourri notre idée de travailler en amont à travers des ateliers, parce que elle avait mis cela en pratique, notamment ce que disait Marine avec les enfants, c'est-à-dire rentrer dans les écoles, prendre le temps de, on va dire, détabouiser, on va dire, la question de la mort, de manière à ce que chacun et chacune puisse se l'approprier et qu'elle puisse devenir presque un espace de fête à la fin, parce que ça a été ça, il y a eu une grande fête, mais une fête consciente, c'est-à-dire que ce qui était donné par chacun et chacune, je l'ai vu moi dans les gestes, dans cette façon d'habiter ces espaces dédiés pour aller mettre un petit reliquaire ou un objet qui est en relation avec les grands-parents, avec les parents ou autres, portait un sens assez puissant du fait de cette accumulation-là. Et c'est un peu ça qu'on a été découvrir, cette façon de faire, surtout qu'il y a eu, je crois qu'ils ont une expérience de 6 ans sur ce moment-là des Dia de los Muertos. Et donc c'était un peu cette expérience-là qu'on avait été rechercher pour comprendre ce qui était possible et envisageable de faire, et surtout se dire qu'ils ont mis en place une procession où il y a, je ne sais pas, on va dire 10 000 personnes dans la rue, quoi, ou 5 000, 6 000, non, 6 000 Marine. Et donc c'est quelque chose d'assez vertigineux et d'extrêmement conséquent sur un moment comme celui-là. Dans les ateliers, il y a aussi un endroit qu'on a été explorer et qui nous semblait intéressant parce qu'il explorait une zone de flou. On a été en relation avec l'école Lisa à Rennes, où c'est des jeunes designers, on va dire. Ouais. Et on est allé à leur rencontre. Donc il y a 5 cursus, 5 années en fait dans cette école-là, et on a été apporter notre réflexion, en tout cas nous en tant que coopérative, et l'approche qu'on avait de la mort, pour leur demander de s'interroger autour de cette question-là, dans justement cette question du design. Et donc on a abordé avec certains intervenants au sein de cette école-là, Sclérigène et Fabrice, les étudiants, de manière à ce qu'ils explorent cette question de la mort, à travers les objets, à travers des mises en scène d'espace ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé, on va dire même presque depuis décembre, et qui va perdurer jusqu'en juin. Et cette exploration d'un endroit où on ne sait pas où on va, va nous donner ou nous permettre en tout cas d'énoncer peut-être des chemins qu'on n'avait jamais envisagés. Et la mise en place de ces ateliers-là, que ça soit avec l'école de Lisa, que ça soit avec ce que fait Lucille Marceau, que ça soit ce que fait Christina Maldonado, c'est des espaces où on ne sait pas vraiment où on va arriver. Et c'est ça, le chemin en tout cas, c'est ça qui nous intéressait le plus, parce que au XXIe siècle, la question de la mort doit être, on doit se la réapproprier d'une certaine façon. On ne doit pas faire fi du passé, mais se questionner sur le devenir, le lendemain. Et toutes ces questions-là, si on va vers un public plus jeune ou le domaine artistique, on peut explorer en tout cas ces éléments-là.
Vous êtes aussi conseiller funéraire au sein de la coopérative. Donc la question de l'objet, c'est aussi quelque chose qui est présent, une réflexion que vous avez, vous menez dans l'accompagnement des familles. Justement, est-ce que toute la réflexion durant cette conception de festival vient nourrir et inversement, comment vous tissez là les deux, à la fois festival de la mort et conseiller funéraire au sein d'une entreprise de pompes funèbres ?
L'apprentissage au sein de la coopérative pour mettre en place ou accompagner les familles dans les cérémonies, elle s'est faite progressivement. C'est-à-dire qu'il y avait, on est parti quand même de rien, on va dire, que ça soit Isabelle ou moi au départ avec Gilles et maintenant Sonia, on partait de rien, aucun de nous ne venait du domaine du funéraire. Et en fait, au contact des familles, des portes sont ouvertes petit à petit. L'une des portes qui s'est ouverte, c'est justement la question des objets. Mais quand je parle des objets, ça peut être l'appropriation d'un cercueil, par exemple. Quelle place a un cercueil dans une cérémonie? Les choses autour des objets ont un peu commencé comme ça. Il y a eu des rencontres avec des familles qui, à un moment donné, se sont dit, ou nous ont dit, est-ce qu'il est possible d'emmener le cercueil chez nous et de nous l'approprier, d'en faire un espace d'expression et... Petit à petit, ça nous a ouvert sur des espaces, en tout cas, des domaines des possibles qu'on n'avait jamais envisagés. Domaines des possibles qu'aujourd'hui, on propose auprès des familles. Donc ça, c'est dans un premier temps, ça s'est fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, les choses sont nourries aussi pendant les cérémonies. C'est à force d'accompagner les familles, il y a comment on interpelle chacun des sens. On peut interpeller la dimension du son. On peut interpeller la dimension de la parole, mais il y a un domaine qui est extrêmement complexe à interpeller, c'est celui du geste. Et c'est comment, en fait, les intentions peuvent se traduire à travers des gestes, sachant que la majeure partie des cérémonies qu'on accompagne, c'est des cérémonies laïques. Et que les gestes ne sont pas inscrits dans l'ADN comme ça. Si on suit une cérémonie religieuse catholique, il y a des rituels qui sont tout écrits. Vous prenez le geste de la lumière... Il y a le geste de l'encens, il y a différentes choses comme ça qui sont inscrites comme une forme de normalité, sans peut-être aujourd'hui en comprendre encore les tenants et les aboutissants de la symbolique qu'il y a derrière. Et au sein de la coopérative, il fallait qu'on soit en capacité de proposer, ou en tout cas d'ouvrir une forme d'appropriation par les familles, à travers leur histoire, et faire sortir les objets qui étaient chez eux, ou peut-être chez les défunts, et faire sortir ces objets pour que justement de cette dimension intime, ils soient partagés d'une façon collective. Et c'est ce déplacement-là, petit à petit, qui nous a amené à réfléchir autour de cette question des objets. Et qui m'a amené, en tout cas moi, à être presque convaincu que le geste a presque plus de sens dans ce qui va rester dans le corps de chacune des personnes, plutôt que les mots qui ont un sens pendant la cérémonie, que le son aussi a un sens, mais ce qu'on va faire collectivement, ce qu'on va construire collectivement, en tout cas, moi, apporte, en fait, ou facilite ce moment de passage.
On écoute maintenant un morceau choisi par vous, Grégory, Ahmad Nobahar de Delkesh.
Ce morceau-là, c'est un morceau iranien et c'était une cérémonie que j'ai accompagnée avec toute une communauté iranienne qui venait célébrer le décès de Parvin. Et il y a eu ce morceau-là à un moment donné qui est apparu. Et un des moments, en tout cas emblématiques pour moi de ce morceau-là, c'est qu'on l'a diffusé en fait au cimetière. Je l'ai passé au moins deux fois. Parce qu'en fait, la proposition qu'il y a eu à un moment donné, c'est qu'il y avait... cette femme aimait les fleurs. Et donc, ils avaient vraiment envie de que ces fleurs-là soient présentes. Sauf qu'on était justement dans une période où il faisait extrêmement froid. Donc l'ensemble des fleurs allaient flétrir en une nuit ou deux nuits. Il n'allait plus rien rester. Donc en fait, j'aurais proposé de mettre l'ensemble de ces fleurs dans le caveau. Et donc pendant tout ce morceau de musique, toute la famille, tous les proches et tout ont pris le temps d'aller chercher l'ensemble de ces fleurs. Et il y en avait, je peux vous dire, un paquet. Et ils ont pris le temps de les déposer. C'était un moment juste magique avec ce morceau-là.
C'était Ahmad Nobahar de Delkesh. Vous écoutez La mort tout un art. On reprend avec Grégory Neuwiartz et Marine Frugès sur le festival de la mort.
Si on reste sur la dynamique des objets, l'espace de travail de Lucille vient totalement répondre à une question qui est celle-là. C'est comment faire que des familles ou des gens qui peut-être on a accompagnés au sein de la coopérative, mais qui ont encore besoin des espaces après, des espaces de narration autres, comment on peut faire de manière à ce que, à travers une artiste comme elle, qui a une pratique autour, une vision, je dirais même, autour de cette notion du reliquaire, cette notion de la mémoire, comment tout à chacun va pouvoir traverser un espace, qui est celui d'une caravane dans ce cas-là, et traduire, on va dire, cette mémoire, mais on pourrait dire peut-être une émotion, peut-être autre chose, à travers un objet concret. Et c'est comment cet objet, on arrive à extraire en fait cette dynamique du faire. Donc c'est en effet c'est le chemin en tout cas qu'on s'est imposé et dans le choix même des artistes qu'on a invités, c'est pour qu'ils puissent justement questionner ce passage entre l'intime, entre l'objet privé, entre l'objet collectif. Et pour ce faire, Lucille par exemple, elle va mettre en place ses ateliers. Dans la caravane.
Lucille Marceau.
Oui, Lucille Marceau. Elle va mettre en place cette pratique-là dans la caravane, mais tous ces objets vont avoir une raison d'être pendant le festival et vont résonner autrement.
Cette caravane, donc en amont du festival, sur la place publique.
L'histoire de la place publique. L'idée d'avoir construit ou mis en place des caravanes. Qui se déplace dans différents espaces, fait résonner justement cette question de l'intime, qui est quelque chose qui nous lie à nos défunts, vers une dimension beaucoup plus collective. C'est rendre et donner conscience à l'ensemble de la cité qui est autour de ces caravanes que cette question-là nous appartient à toutes et tous. Et faire de manière que c'est créer un espace des possibles, mais aussi un espace où c'est possible de rentrer. Et ces espaces-là, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup. La seule fois où on est en relation avec la mort, c'est au moment des cérémonies. La seule fois où on est en relation avec la mort, c'est quand quelqu'un vient à savoir qu'il va falloir qu'il prépare ce chemin-là. Mais et souvent, c'est impactant. Alors que l'explorer autrement, dans un moment qui est plus peut-être plus doux ou autre, ça permet d'aller chercher, en tout cas, des éléments de réflexion qui nous permettent de l'accueillir autrement. Et en tout cas, de s'inscrire comme ça, de cette façon-là, dans l'espace public, c'est donner à voir qu'il est possible de parler de cette question-là. Donc on a osé l'idée des caravanes, on a osé l'idée d'avoir presque une forme de village nomade avec d'autres caravanes, mais ça peut-être qu'on pourra en reparler plus tard ou avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'installer un espace des possibles autour de cette question-là. L'idée du festival est vraiment, je pense, que ce qui fait la beauté du partage dans le groupe collectif qui porte le festival, c'est vraiment cette dimension exploratoire. On ne sait pas vraiment où on va. Et par exemple, l'idée de la caravane, et c'est vrai qu'elle a surgi presque par une blessure. C'est-à-dire qu'au départ, on avait envisagé un campement avec un chapiteau. Pourquoi un chapiteau ? Parce qu'on a fait des cérémonies dans les chapiteaux. Donc, et pourquoi on a fait des cérémonies dans les chapiteaux ? C'est parce que des familles nous y ont poussé à un moment donné. Parce que il y avait cette nécessité d'avoir le chapiteau qui résonnait avec la cérémonie qu'on allait mettre en place à l'intérieur de ce chapiteau. Donc il y avait quelque chose qui nous semblait presque naturel et qui amenait aussi une dimension peut-être foraine, une dimension fun qu'on voulait. Au moment où on a su qu'on n'allait pas avoir ce chapiteau, restait l'idée des caravanes. Et c'est comment on a réussi de cette blessure-là, on va dire quelque part, à se réapproprier d'un espace en se disant « mais en fait, cette caravane, c'est mobile ». On peut aller où veut, on peut rester dans la ville, mais pourquoi pas aller dans la campagne. On peut aller en centre-ville, mais pourquoi pas sur les périphéries. En fait, ça donnait un domaine des possibles qui était juste dingue. Et c'est ça qui nous a séduit, en fait, dans cette dynamique des caravanes.
Pour revenir sur le lieu du festival, vous l'avez dit, le théâtre du Vieux Saint-Étienne, ancienne église désacralisée. autour un ancien cimetière.
Non, c'est assez magique en fait ce lieu. Il est, dès qu'on rentre dedans, en plus il était totalement vide. On a eu la possibilité même de monter, de voir la structure tout là-haut, enfin de vraiment s'accaparer l'espace ou de se projeter les uns les autres avec nos imaginaires respectifs. Et du coup, il y a un terrain de jeu qui est ultra stimulant. Mais maintenant, il va falloir faire rentrer toutes ces pièces de puzzle là-dedans.
Mmh. Et Marine, vous avez créé toute la charte graphique de la coopérative funéraire de Rennes. J'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller sur le site web de la coopérative.
Merci.
Allez jeter un œil déjà. Et puis vous avez là créé la charte graphique, vous êtes en train de concevoir toute la communication sur le Festival de la Mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
De la même manière que le festival, il est en train de se modeler, j'ai essayé d'utiliser une matière que je pouvais manipuler comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire que mon visuel il va aussi évoluer par rapport à l'évolution du festival, de la programmation, et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que moi-même je ne sais pas exactement où ça va. Et alors après, pour être plus concret sur l'approche que j'ai faite, que j'ai proposée, comme j'avais travaillé pour la coopérative sur des avatars, sur des personnages, parce que ça me paraissait cohérent de travailler sur l'incarnation humaine qui venait accompagner des familles et des proches, là c'était un peu l'alternative, et puis peut-être que j'en avais un peu ras-le-bol aussi de faire des squelettes. Et de me dire je vais pas forcément tomber dans ce qui pourrait être attendu, et comment je peux essayer de tourner autour du sujet et de lui donner une dimension un peu plus large en fait, pour évoquer la notion du cycle de la vie et de la mort. Au fur et à mesure, ça m'a amené à exploiter la forme et la possibilité, le potentiel du ver de terre, du lombric. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'était ce qui se passait justement entre le monde du dessus et le monde du dessous. Et que pour moi, le festival, il était un peu cet interstice entre les deux, un espace pour eux. Que j'ai réinterprété dans l'explication d'un anthropologue du folklore qui s'appelle Arnold van Gennep. Et j'aime beaucoup le mot qu'il a inventé, ça s'appelle la liminarité. Et en fait, c'est cette zone indéterminée entre deux moments, deux rituels de passage par exemple, mais après je l'ai extrapolé à la notion de deux mondes que souvent on délimite sous une ligne franche, et plutôt justement de s'interroger sur cette zone poreuse, et que le festival était un peu cette ouverture-là dans mon interprétation visuelle. Et donc de me dégager de tout ce qui était squelette et crâne et tout ça.
On a pu voir une déclinaison du visuel, aussi festif quand même, hein, avec le cœur mortel.
Et ben là, c'est justement le prolongement de la recherche, c'est-à-dire que ce lombric, pour lequel j'ai donné une forme d'accolade au niveau du logo, il se décline après en serpentin festif. Et je rajoute, j'ai ma petite obsession des pois jaunes de la coopérative, donc je rajoute des petits cotillons jaunes dans cet environnement, aussi pour rappeler la place de la coopérative dans la programmation, l'organisation du festival. Donc après, cette manipulation des serpentins et des cotillons va venir se décliner et évoluer au fur et à mesure des projets qui se mettent en place. Donc c'est toujours jouer entre la notion de attraction-répulsion, c'est-à-dire qu'on va être séduit par la notion de vue de loin de quelque chose qui est très festif, et puis finalement en se rapprochant, on prend conscience qu'on est en train d'aborder un sujet beaucoup plus profond, ou sérieux, ou sombre, et d'être toujours sur cette ambivalence entre deux mondes joyeux, sombres, vivants, morts.
On part sur le cœur mortel, parce que là c'est concrètement quelque chose aussi que les personnes, en tout cas celles et ceux qui sont inscrites à la newsletter, ont pu recevoir, ce cœur mortel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Marine, sur cette notion de la liminarité. Il y a des zones, en fait on a tendance à penser que notre relation à la mort est tranchée. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un vient à partir, quelqu'un décède, les choses vont, le chemin va être écrit. Alors on parle du chemin du deuil avec des étapes, alors que les choses sont beaucoup plus floues et elles doivent s'approprier d'une façon personnelle, intime, et chacun est extrêmement différent par rapport à cela. L'idée du cœur mortel, c'était d'arriver à créer un espace, un endroit où tout à chacun pourrait se retrouver avec d'autres, prendre part à un cœur, justement, à travers le chant. Donc pas nécessairement être dans une dimension thérapeutique, de soins ou autre, mais plutôt dans quelque chose d'exploration personnelle, mais qui se partage avec les autres, et d'autant plus à travers le chant. L'idée, c'était que une chef de cœur puisse réunir un certain nombre de personnes. Bon, on va dire qu'on était un peu dépassé par l'idée, parce qu'on arrive à peu près à 180 personnes. Que chacun des chants, en tout cas, qui vont être partagés au sein de ce cœur mortel, sont des chants qui parlent de la mort, mais aussi de la vie, et qui traversent un ensemble de chants qui pourraient être celui du chant religieux qu'on peut retrouver peut-être à l'église, mais jusqu'à des chants qui viennent de l'autre bout du monde. Et c'est y trouver une signification à ces chants. Qu'est-ce qu'ils génèrent? Pourquoi ils ont été écrits? Quel est le sens à tout cela? Et en fait, de proposer un espace comme celui-là, ça permet à tout à chacun d'aborder en tout cas cette question autrement. C'est un peu ça, le cœur mortel.
Vous pouvez juste donner le nom de la chef de cœur?
Alors c'est Perrine Aterianus, hein, qui a déjà travaillé sur des projets énormes. S'il y en a qui vont chercher sur Internet, il suffit de taper Soror, hein, et ils verront la dimension des cœurs que ça peut prendre. Et elle a une facilité, ou en tout cas un endroit aussi étonnant que Lucile Marceau peut l'avoir dans l'intimité avec les objets, à pouvoir transmettre une énergie qui fait que chacun et chacune se sente suffisamment à l'aise pour s'exprimer autour de cette question-là, c'est-à-dire déjà le chant, mais qu'à travers cela, en fait, chacun vient y déposer quelque chose. Nous, on s'est rendu compte, dans ces 180 personnes, qu'il y avait une bonne moitié des personnes qu'on avait accompagnées pendant les cérémonies. Donc il y avait réellement un besoin à créer des espaces comme cela. Et le cœur mortel répond quelque part à une nécessité qui aujourd'hui fait sens.
Alors j'étais à la première répétition du cœur mortel et j'ai capté le son, alors je voulais vous faire écouter un petit montage d'extrait de cette soirée.
J'allais employer un mot pas joli, mais non, voilà, ténacité, c'est magnifique, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand même, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais chanté à plusieurs voix, mais là, c'est un peu ambitieux de ma part. C'est une harmonisation qui est un peu quand même, costaud, mais c'est vachement beau. On va partir vers un chant américain. C'est un chant qui vient de la tradition des Shakers. Qui est une branche, on va dire, de l'Église catholique irlandaise qui s'est installée aux États-Unis au début du XXe. C'est un chant de célébration qui a été, en fait, chanté à plein de périodes de l'histoire pour plein de choses différentes. Il a été très popularisé aux États-Unis pour rendre hommage aux disparus de la Grande Guerre. Et puis après, il a été repris par Nick Cave dans une autre version, où lui, il l'élargit à la question de la fin vers laquelle on va tous. Et voilà, c'est un chant de recueillement aussi que moi, qui me touche beaucoup et qu'on a déjà partagé avec plusieurs d'entre vous. Ça va faire comme ça. Les lay me low. On est en train de dire lay me low. Laisse-moi reposer, laisse-moi en bas, laisse-moi en bas.
Lay me low, lay me low, lay me low,
lay me low.
En fait, cette chanson-là, ils l'ont chantée à une cérémonie que j'ai portée. C'était énorme. Il y avait en fait, c'est ça que partage Perrine. C'est oser, même si on ne sait pas chanter. Et arriver à partager collectivement même le temps d'une cérémonie, ça a du sens. Et on le retrouve là, dans cette chanson-là, où je dirais peut-être 50% ne savent pas chanter dans l'ensemble de ce chœur, quoi. C'est pas grave, parce qu'ensemble, en fait, on se dilue quelque part et on fait cœur et on fait corps. Et c'est ça qui fait sens. Et c'est pour revenir, par exemple, dans la cérémonie sur la notion de l'objet, pour moi, ça a autant de force que celle-là. C'est-à-dire comment on vient déposer, par exemple, dans une cérémonie, plusieurs objets qui viennent tisser une narration ou un collectif et qui fait qu'on se sente ensemble. Et pour ce moment de partage, par exemple, qui est vraiment cette cérémonie, pour moi, qui est comme un... En tout cas, ce que je partage souvent avec les gens, une forme de pacte collectif qui s'écrit à ce moment-là. Et ce pacte-là, en fait, il engage en fait chacun et chacune à continuer à évoquer la mémoire. Ce qui fait que cette notion de mémoire, de l'interroger avec le travail de Lucile Marceau à travers les reliquaires, a un sens, en fait. C'est comment on fait. Et ça, on ne sait pas faire. On ne nous a pas appris. En fait, on nous délaisse par rapport à ça. Aujourd'hui, des gens même peuvent se dire, mais comment on signifie quand on est dans le monde extérieur, qu'en fait on porte quelqu'un qui est décédé et qu'on a quelque chose, une forme de blessure intérieure, mais qui ne se voit pas. Et à travers ces espaces-là, en tout cas le fait d'acter à travers le chant ou à travers ces objets qu'on déplace et qu'on réunit de façon collective, ben je pense que là on commence à cerner ou à comprendre ce qui pourrait être fait demain. Mais c'est encore à explorer tout ça. On en est vraiment aux prémices de tout ça. Et je pense que le cœur, là, c'est le résultat quand même de la première rencontre. Mmh. Il va en avoir plein d'autres, une par mois. Et ce cœur-là va prendre part aussi, à un moment donné, au festival. On ne sait pas encore où et comment, mais en tout cas, il va prendre part au festival d'une certaine façon. Ça va être une invitation à ce que tout le monde se joigne à ce cœur et prenne part au chant collectif, dans la cité.
Ben, je vous remercie Marine, Grégory. Je rappelle les dates du festival vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Pour être tenu informé de la programmation, le mieux est de s'inscrire à la newsletter de la coopérative funéraire de Rennes. Et puis vous retrouverez le programme prochainement sur le site web de la coopérative.
Merci Lucille.
Merci à vous. On termine encore avec un petit extrait, moi je m'en lasse pas.
Where?
termine en musique avec un morceau choisi par Marine Frugès.
Ça va être juste un morceau parce que j'aime bien le nom du groupe et j'aime bien le titre en plus en allant chercher ce que c'était. Donc c'est Death in Vegas et le morceau c'est Dirge. Et en fait Dirge ça veut dire chant funéraire et j'ai découvert ça pour l'occasion, pour là.
Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.